Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec M. Borges Monory pour parler, allez, commençons par une bonne nouvelle. La bonne santé de l'Agence européenne spatiale, Ariane Espace, fête les succès pour Ariane 5, puisque c'est une agence européenne et Ariane Espace, on en est à plus de lancements avec Ariane 5 qu'avec Ariane 4. Donc finalement, la coopération européenne, ça peut marcher.
Oui, ça marche. Et puis en plus, on sous-estime souvent ce potentiel européen. Lorsqu'on met des ingénieurs ensemble de tous nos pays, eh bien, on arrive à un niveau par rapport au monde qui nous entoure, à un niveau tout à fait sur le devant de la scène. On oublie souvent la taille et la place de l'Europe dans le monde. Mais l'Europe, si elle est unie, elle est d'abord, on l'a souvent répété ici à cette antenne, mais elle est d'abord la première puissance commerciale du monde. On l'oublie souvent.
Mais aussi là, la puissance de recherche intellectuelle.
Alors, il est vrai que nos systèmes, surtout en France, n'est pas très favorable à ce qu'on soutienne les start-up comme on le fait aux États-Unis, où il y a de très grandes possibilités. Et malheureusement, il y a parfois une fuite des cerveaux, comme on dit. Mais là où on met le paquet et où on essaie de tracer, notamment il y a un défi qui se présente à nous tous avec le numérique, eh bien, il y a véritablement des choses à faire et à faire valoir, en particulier la plus-value européenne, parce qu'en s'unifiant, comme pour le reste, eh bien, évidemment, on est les meilleurs.
Alors, en physique, en chimie, en économie, ce sont quand même des Européens qui ont eu les prix Nobel. Donc, après tout, la conception et la synthèse de machines moléculaires, ce sont des Européens. Je trouve qu'il y a quand même là des choses tout à fait intéressantes et que dans ce monde de la recherche, de la science, finalement, les frontières sont réellement abolies et on voit des chercheurs quand même qui travaillent entre labos, avec des entreprises industrielles, avec leurs laboratoires. On a véritablement une communauté scientifique. Et je me dis, là, voilà des choses qui me paraissent intéressantes. Il faut commencer par les bonnes nouvelles, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Bon. Alors, en outre, cela va nous amener à voir que, puisque parmi ces chercheurs, il y a des Anglais, on peut espérer que les laboratoires, malgré le Brexit, vont continuer leur travail en commun, puisque finalement, ils ont quand même des programmes de recherche en commun. Ce qui m'amène à dire, quoi de nouveau pour le Brexit? On a des dates, il me semble.
Oui, le Premier ministre britannique, enfin la Première ministre, devrait-on dire, Madame May, a annoncé qu'au mois de mars de l'année prochaine, elle allait enclencher la procédure de l'article 50. Et en même temps, elle s'est prononcée devant la Chambre des communes pour indiquer que le Brexit, il fallait l'appliquer totalement suite au référendum que l'on sait, qui demande par sa population la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Ça provoque quelques problèmes quand même.
Oui,
on a vu l'Écosse réagir.
Tout à fait. L'Écosse vient encore ces derniers temps, par la voix de son Premier ministre, de rappeler qu'elle va tout faire pour que précisément la question de la sortie de l'Écosse, non pas de l'Union européenne, mais du Royaume-Uni, sera soumise à un vote, à un référendum, et que la question est remise sur la table à la suite de cette affaire du Brexit, et tout cela pour que l'Écosse soit maintenue dans l'Union européenne.
Ah, ça, c'est intéressant. Donc, au point de vue... Pardon, je vous ai coupé.
Oui, non, mais ce que je voulais juste ajouter, c'est que du côté britannique, apparemment, on essaie de présenter la chose sous l'angle le plus dur, et du côté européen également. Alors, est-ce qu'il y a derrière tout cela aussi une tactique diplomatique? Parce qu'une fois que l'article 50 sera ouvert, déclaré, la référence à l'article 50 sera faite, eh bien, il y a un délai de 2 ans, comme on l'a déjà dit, lors de notre dernière émission, de 2 ans donc, de négociation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors si, évidemment, de chaque côté, on s'arc-boute sur les négociations à venir en disant on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, chacun renvoyant, évidemment, le même argument de l'autre côté de la Manche, si je puis m'exprimer ainsi, on risque d'avoir des difficultés véritables parce que tout le monde a évidemment à perdre dans cette affaire-là, mais les Britanniques encore plus que les autres. Alors, pour l'instant, eux, ils parient sur une revitalisation de leur ancien empire. Mais est-ce que sur le plan, est-ce qu'ils vont pas perdre, évidemment, tout le monde va perdre quelque chose, mais normalement, tous les économistes le montrent, eux, les premiers. Le grand débat qui reste ouvert et pour lequel les Européens, les 27, donc moi le Royaume-Uni, donc disent on ne peut pas accepter qu'il y ait un accès du Royaume-Uni au marché unique dans les conditions actuelles si le Royaume-Uni n'accepte pas parallèlement la circulation des personnes qui fait partie des traités et qui fait partie de l'ensemble de cet échange, des échanges à travers le marché unique. Donc si les Européens qui viennent du continent européen n'ont plus les mêmes possibilités de circuler au Royaume-Uni qu'auparavant, eh bien à ce moment-là, le marché unique devra être fermé totalement au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni se mettra dans la position d'un État tiers, comme par exemple à l'heure actuelle le Canada par rapport à l'Union européenne. Donc voilà où en sont les choses.
Alors,
les Britanniques ont toujours été très forts, ont une réputation très forte sur le plan diplomatique. Peut-être essaient-ils de faire monter la température pour obtenir, après, en faisant semblant de lâcher un peu de lest. En tout cas, c'est quand même une affaire qui se présente pas très bien. Sur le plan international, si on s'adresse à des interlocuteurs qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne, ils s'inquiètent sur le devenir de l'Europe, parce que eux, ils voient que ça se délite et ils sont un peu préoccupés. Donc c'est très mauvais pour les affaires, c'est très mauvais pour les investissements. Reste que du côté intérieur à l'Union européenne, il y a des grandes déclarations. Il y a eu le sommet européen de Bratislava qui s'est tenu la dernière fois au mois de septembre sans les Britanniques. Maintenant, aujourd'hui même où nous enregistrons, il y a un sommet européen qui se tient là cette fois-ci à 28, donc avec le Royaume-Uni, où la question du Brexit sera évoquée au dîner ce soir, si j'ai bien compris, où la question sera évoquée brièvement. Mais en tout cas, il n'y a pas du côté européen de l'Union européenne, en dehors d'une espèce de feuille de route tracée à Bratislava qui dit qu'évidemment il faut essayer de se tenir ensemble, mais il n'y a pas un véritable projet, comme on l'a souligné à maintes reprises à cette antenne, un véritable projet d'avenir pour l'Union européenne, sinon que d'essayer de maintenir en l'état tout ce que l'on peut faire. Et là, cela me renvoie à une autre actualité, si vous me permettez de dire que ces jours-ci, on a fêté le 20e anniversaire de l'Institut Notre Europe, institution Jacques Delors. C'est quelque chose qui nous renvoie au père fondateur, en quelque sorte, parce que l'époque de Jacques Delors est celle qui, en dehors des Jean Monnet, des Schuman, de tout cet grand élan de l'après-guerre, a fait que l'Europe avait retrouvé un sens et avait un projet. Alors ceci me parle à moi personnellement parce qu'il se trouve que j'étais quand même associé à la mise en place de cette institution, de cette Notre Europe, et qu'on m'a fait l'honneur d'être membre fondateur de Notre Europe. J'en suis très fier, mais j'en suis surtout reconnaissant à Jacques Delors qui a mis en place un espoir et qu'il faudrait à nouveau... J'ose pas dire un nouveau Jacques Delors, l'histoire se répète jamais sur ce plan-là, mais en tout cas, qu'il y ait un nouvel élan pour rebondir. On l'a dit maintes fois, l'Europe a besoin de tous, et si on est divisé, eh bien, on existera de manière beaucoup plus négative. Donc, alors, il faut absolument s'unir, mais pour cela, il faut s'unir autour de valeurs, de sens, et pas uniquement sur un plan financier, institutionnel, commercial ou autre. Donc,
alors, il faut aller plus loin. Je vais reprendre là-dessus avant la pause. Il y a des choses très positives de ce côté-là. C'est l'alliance entre l'OCDE, la Grèce et la Commission pour lutter contre la corruption. Mais il y a aussi la mise en place d'un certain nombre de choses. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais aussi, il y a aujourd'hui le résultat du référendum en Hongrie. Les Hongrois ont bien dit halte là, nous ne voulons pas nous ouvrir davantage. Donc on a vu triompher d'une certaine manière la fermeture. Et puis lorsqu'il s'est agi d'un référendum qui visait à être plus concret, les Hongrois ont dit non, non.
Mais l'affaire,
c'est quelque chose de positif sur le sens.
Le résultat est positif, mais le questionnement est beaucoup moins. C'est-à-dire que nous savons tous que le gouvernement hongrois actuel est un gouvernement qui regarde l'Europe d'une manière très nationaliste, pour ne pas en dire plus. Et la question qui a été posée aux Hongrois, qui ont voté le 2 octobre dernier, était, et vous allez tout de suite comprendre comment il était quasiment impossible de répondre non à la question posée, hein, c'est le principe bien démocratique des référendums, voire des plébiscites, voulez-vous permettre à l'Union européenne d'ordonner une relocalisation des citoyens qui ne sont pas hongrois en Hongrie sans l'approbation de l'Assemblée nationale ? Il est évident qu'avec une telle question, les gens sont amenés à dire « bah évidemment, on ne va pas accepter ça ». Eh bien, malgré cela, le peuple hongrois, et c'est là où vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a ce côté positif, c'est qu'ils se sont très peu déplacés dans les urnes
pour répondre à une question.
Pour une question où on ne pouvait pas répondre non, eh bien, ils se sont abstenus. Et il se trouve que la constitution hongroise fait qu'il faut un certain pourcentage à la suite d'un référendum pour que le résultat de ce référendum soit acté juridiquement parlant. Et le plus fort, c'est que c'est ce même gouvernement qui avait fait en sorte qu'un tel pourcentage soit mis en action. Donc ils sont pris à leur propre piège, mais ceci étant, il faut quand même.
Donc on peut faire fond quand même sur le cœur de la population, parce qu'on a eu la même chose aussi en Pologne. En Pologne, où on avait un resserrement et puis des affaires beaucoup plus strictes, notamment vis-à-vis de la législation concernant les femmes et la vie de, disons, la reproduction, la contraception, l'avortement. Là aussi, les Polonais ont refusé un durcissement de la loi qui allait
là aussi, le peuple
contre le droit.
A réagi positivement, pourrait-on dire, à ce stade, en tout cas, de la construction européenne.
Eh bien, une pause avant de reprendre. Sorrow will grow, surely go flowing your mind and drought the lamb of God. Oro, 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 sorrow will grow. This sorrow will grow, a sorrow will grow. Who shouldn't you park a temple at a mogul of lamb of God? Oro, 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 sorrow will grow. Bien, vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bienvenue en Europe. Et tout à l'heure, dans notre conversation, on a évoqué le Canada. Alors, au passage, je me dis, eh bien, c'est quand même intéressant de voir qu'une petite province, la Wallonie, c'est grand comme la Bretagne ou à peu près, peut obliger à réfléchir sur ce qui se passe dans le cadre d'un grand traité. Ce qui veut dire aussi que la démocratie dont on dit, eh bien non, c'est simplement technocrate à Bruxelles. Eh bien non, la démocratie fonctionne. La preuve, c'est que la résistance gauloise, c'est comme dans Astérix, c'est la petite Wallonie qui résiste à la machine bruxelloise. Mais en même temps, derrière le CETA, qu'est-ce qu'il y a réellement ? Et puis cela nous renvoie à la situation de l'Europe par rapport au grand traité. Donc on a ratifié le traité de Paris, les accords de Paris concernant la COP21, on se pose des questions sur le traité transatlantique et puis donc là, le traité avec le Canada. Donc.
Mais dans les institutions européennes, c'est la Commission qui est chargée de négocier les accords commerciaux. Donc c'est dans ces attributions. Et alors évidemment, du côté des citoyens ou lorsqu'un gouvernement ou des groupes de pression trouvent qu'ils n'ont pas leur intérêt aussi préservé ou aussi favorisé qu'ils le souhaiteraient, alors ils s'en prennent à la technocratie bruxelloise. Ceci c'est à double tranchant, c'est-à-dire que les citoyens ont souvent le sentiment que les accords sont négociés dans des couloirs discrets, sans que personne puisse savoir ce qui se passe, et puis on les met devant le fait accompli. Il n'en est rien. C'est-à-dire que la Commission effectivement négocie, elle ne va pas se mettre à crier sur toutes les ondes à chaque fois, à chaque phrase qu'elle négocie dans un papier, par exemple avec les Américains, qu'ils soient canadiens ou au sud avec les États-Unis. Mais il reste que la démocratie a son mot à dire, puisque les États doivent ratifier le résultat des négociations. La Commission revient devant le devant quand elle a négocié, puisque c'est son mandat. Elle négocie, sur base d'ailleurs d'un mandat qui lui a été largement inspiré par les États membres, les gouvernements nationaux. Elle revient pour dire, ben voilà ce que nous pensons, les résultats, les aspects positifs, les aspects négatifs. Là, on peut améliorer, là, on n'améliore pas, là, on peut, à notre avis, pas aller plus loin. Bon, nous, on vous propose cela. Les États doivent se prononcer. C'est-à-dire que les parlements nationaux, s'ils sont demandés, convoqués par les gouvernements nationaux, parce que ça dépend des cas de figure. Il y a des États où c'est le gouvernement directement qui donne son approbation. Il y a d'autres États où les parlements nationaux sont impliqués dans la prise de décision. Et aussi, derrière, il y a le Parlement européen qui vient également donner son mot. Donc on n'est pas du tout devant un fait accompli, comme certains ont voulu le faire croire. On est simplement dans la procédure normale. Je crois que c'était important de le rappeler. Alors maintenant, je ne suis pas un spécialiste de cet accord et de savoir quel est le fond là-dedans. Il reste que dans tous ces accords, il y a forcément souvent des avantages et des inconvénients. Mais si on prend globalement l'ensemble, on sait que, on l'a dit tout à l'heure, l'Union européenne est la première puissance commerciale du monde. Par rapport au Canada, le Canada vient en 12e position dans ses partenaires extérieurs. Donc ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas le premier non plus. En revanche, pour le Canada, c'est plus important, parce que l'Union européenne vient juste derrière ses relations avec les États-Unis au plan commercial. Alors évidemment, le but de l'opération, que ce soit dans le traité transatlantique avec les États-Unis ou le Canada, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit gagnant pour développer la croissance, le commerce, etc. etc. Ceci étant, c'est bien que la région wallonne ait dit ce qu'elle pensait, et puis on va voir s'il y a une suite qui sera donnée. Normalement, il y a la visite de M. Trudeau qui intervient dans quelques jours, le 27 octobre. Alors il y en a qui estiment qu'un compromis pourra intervenir d'ici là. De toute façon, il faut, comme je l'ai rappelé, suivre les procédures. Il y a les États qui doivent donner leur accord à l'unanimité, hein, attention.
Et oui, c'est d'ailleurs ça. Donc, les États sont d'accord, sauf la Wallonie.
Sauf la Wallonie. Non, mais c'est-à-dire que le gouvernement belge ne peut pas donner son accord tant qu'il n'a pas ça. Et donc, c'est un cas de figure. Mais pour rappeler que c'est bien que la démocratie agisse et fasse faire valoir son point de vue. Et le Parlement européen, peut-être aussi, aura son mot à dire.
Alors, c'est aussi intéressant de voir que, quelquefois, c'est une région, entre autres la Wallonie en Belgique, mais quelquefois aussi, c'est un ensemble de pays qui s'insurgent contre des dispositions qui en favorisent d'autres, et notamment par rapport aux travailleurs détachés. La Commission européenne propose une législation qui est demandée par l'Allemagne, la France, la Belgique, enfin, etc., les pays de l'Ouest de l'Europe, qui, sous l'influence de leurs opinions publiques, voient les travailleurs détachés dont on ne devait faire, que l'on ne devait utiliser que partiellement, 500 000, 600 000, maintenant on est à 1,4 million, donc c'est quand même beaucoup plus important. Mais on voulait aussi établir une parité entre les salaires qui existent dans les pays où ils travaillent et ceux des salariés du pays. Et actuellement, les dispositions qui sont prises par la Commission et qui vont dans le sens de cette égalité, si j'ose dire, sont remis en cause par les pays d'origine. Donc là, je crois aussi qu'il y a, et ça c'est peut-être une éducation à l'Europe que l'on doit se faire, il faut aussi tenir compte des autres et pas simplement de nous et de l'Europe. Ça n'est pas la capitale à Paris ou à Bruxelles, mais c'est aussi la capitale, elle est en Pologne, elle est en Estonie, elle est, enfin, je crois que cette prise de conscience, si on regarde l'actualité européenne, me paraît intéressante.
C'est, sur ce point-là, j'aimerais ajouter une chose, c'est que les travailleurs détachés, selon les traités, il y a la libre circulation des travailleurs, des personnes, ce qui est normal. Donc on considère le marché unique comme un État national, simplement. Il y a plusieurs États qui en font plus qu'un. Donc c'est l'image, ce n'est plus le Languedoc et la Provence ou l'Alsace, etc. Donc c'est un ensemble qui fait une seule entité. Mais il y a des législations en ce qui concerne les travailleurs et surtout une fiscalité différente d'un État à l'autre. Alors, on essaie d'harmoniser cela en disant que là, on va faire en sorte que c'est le droit applicable dans l'État où va se trouver le travailleur qui sera applicable, et non pas le droit d'origine. Mais on voit bien que dans tout système, par rapport à un système unifié dans un État national, il y a quelque chose qui cloche quand même, et on en revient toujours au manque de projet ou au manque de courage de nos politiques d'aller
courage
plus loin.
Courage politique, en effet, oui.
C'est de dire, l'évidence, c'est qu'il y a des fiscalités différentes, que ce soit en ce qui concerne les travailleurs détachés, que ce soit en fonction des entreprises qui vont plutôt en Irlande plutôt qu'en France, ou etc. Tant qu'on n'aura pas mis en place un minimum d'harmonisation fiscale entre les États, à commencer par la fiscalité applicable aux sociétés, aux entreprises, eh bien, il y aura évidemment à chaque fois des problèmes et des drames. Et là, ça jaillit. Alors, c'est bien que les États se préoccupent de la question, enfin, parce qu'il y a évidemment des injustices, sur le plan social en particulier. Quand vous avez des travailleurs français qui travaillent et puis qui voient qu'une autre nationalité européenne est beaucoup moins payée, mais rafle des marchés par rapport à eux, il y a une concurrence déloyale. Mais tant que nos propres politiciens n'auront pas sauté le cap d'un minimum d'harmonisation fiscale, eh bien, il y aura toujours des problèmes.
Je crois que ça peut... Est-ce qu'il n'y aurait pas une question d'éducation des hommes politiques ? Parce que les hommes politiques que chaque pays envoie au Parlement, ce sont des gens qui sont éduqués dans le sérail de leur propre pays.
Il faudrait tous qu'ils traversent, qu'ils aillent faire un stage à travers Erasmus et chez le voisin, etc. Et pourquoi pas, ce serait une chose intéressante. C'est... Mais enfin, on est un peu dans le royaume de l'utopie.
Mais en ce qui concerne, ce qui est intéressant aussi, c'est que les États qui refusent que la Commission intervienne et propose ces mesures, qui vont dans le sens d'une certaine égalité, le font au nom de la subsidiarité. Et alors, c'est vrai aussi que c'est quelque chose que l'on défend, parce qu'on veut défendre. Alors là, je crois qu'il y a une réflexion politique à avoir, de fait.
Surtout que la subsidiarité a deux versants, c'est-à-dire soit aller à 100% subsidiaire, c'est-à-dire que c'est le recroquevillement sur soi, au niveau le plus bas, le plus local, le plus national, le plus protectionniste, et on sait où ça mène, c'est-à-dire à des catastrophes, généralement, que ce soit sur le plan économique, politique ou autre, pour ne pas dire plus. Et puis, il suffit de regarder les exemples désastreux de l'histoire, ou alors l'autre versant qui consisterait à essayer de faire passer au niveau le supérieur un maximum de choses. Donc il faut un juste milieu, et la subsidiarité c'est bien, mais effectivement il faut, comme pour le reste, qu'il y ait une certaine harmonie.
Alors, dans le dernier point à aborder, c'est peut-être aussi la situation des jeunes, parce que le fait d'avoir harmonisé un certain nombre de dispositions, et notamment des dispositions concernant l'équilibre financier, cela aboutit à un certain nombre de cures d'austérité prises dans les pays. Alors on peut observer une chose positive, c'est que la situation de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne se sont améliorées. Mais quand même, au niveau des jeunes, il y a 40 millions de jeunes dans les pays de l'OCDE qui sont sans emploi. Et parmi les pays de l'OCDE, bien sûr, tous les pays de l'Union européenne. Et un emploi sur 10 occupé par un salarié de moins de 30 ans a été détruit pendant la crise en Espagne, en Grèce, en Irlande. Les jeunes salariés, avant la crise, étaient un certain nombre. Après la crise, c'est la moitié qui a perdu son emploi. Donc là, il y a quand même des questions qui se posent au niveau de des dispositions à prendre. Et là aussi, les jeunes plébiscitent l'Europe. On perçoit, notamment dans les élections anglaises, que les jeunes votaient plutôt pour l'Europe. Ils sont satisfaits des dispositions Erasmus en tout genre, mais en même temps, sont un peu les perdants de notre système.
Oui, vous avez tout à fait raison de souligner tout cela. C'est effectivement très, très triste de voir une pareille situation. Derrière cela, je voudrais souligner que c'est le manque d'Europe, là encore, qui fait défaut. Parce qu'il y a évidemment Erasmus, le plan Juncker intervient, mais ça nous renvoie aussi à la dimension purement peut-être financière de l'Europe. Mais pour qu'il y ait croissance, pour qu'il y ait développement de nos économies, il faut qu'il y ait de l'investissement, mais il faut de l'argent pour ça. Il faut qu'on s'entende, il faut, on en parlait, une harmonisation fiscale, une harmonisation budgétaire. Mais justement, au niveau du budget, le budget européen, il n'existe quasiment pas.
Il représente... Il va parler de questions, là, ces jours-ci, cette année.
Eh bien, justement, il y a le Parlement européen qui est saisi du fait que la Commission européenne a mis sur la table un projet de révision du budgétaire qui est très encadré par les États membres. Il faut savoir que le budget représente à peine 1% du PIB du continent européen, ce qui est vraiment rien du tout comparé à la taille de l'Union européenne, que la plupart des fonds, les 80%, repartent des fonds récoltés ainsi à travers les États qui cotisent pour mettre ce 1%, eh bien 80% repartent vers ces mêmes États à travers les subventions agricoles ou les fonds de cohésion. Et ce qui reste véritablement à redistribuer au niveau européen, c'est à peine 14% de ce 1%. Autant dire que c'est quasiment rien. Là aussi, il faudrait qu'il y ait un véritable impôt européen, que ce soit à travers une taxe sur les transactions financières ou quelque chose, qui soit indépendant des contributions des États, pour que l'Europe existe par elle-même. Alors évidemment, quand on parle d'imposition, on frémit en disant « Ah non, on ne va pas encore ajouter quelque chose à ce qui est déjà pris au plan national ». Mais il reste que, si on prend la comparaison entre les États au plan national et au niveau européen, il y a une telle différence qu'il ne faut pas s'étonner que le plan Juncker, qui essaie de raboter à droite et à gauche dans tout ce qu'il peut trouver dans le budget européen, pour essayer de mettre un maximum du minimum sur la table, pour essayer de faire un effet de levier. Mais tant qu'il n'y aura pas sur ce plan-là, comme sur la question de l'endettement des États, de la rigidité du système en ce qui concerne les règles de Maastricht et la suite à travers les règles du 3% de croissance, d'équilibre budgétaire, de déficit, parce qu'on partage une monnaie commune. On partage une monnaie commune, mais on ne se donne pas les moyens de la gérer correctement. Et du coup, ça crée une distorsion de concurrence sur le plan économique qui a des effets malheureusement très négatifs.
Oui, c'est ça. L'austérité a eu des effets négatifs, et notamment vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis des femmes, du coup, aussi. Mais pour finir, nous allons... Rappelez quand même les aspects positifs. Les aspects positifs, c'est, nous évoquions la bonne santé des agences européennes, et c'est aussi le fait que c'est en Europe que la Commission a demandé, par exemple, la fin de l'état d'urgence en Turquie. Donc l'Europe existe et favorise la démocratie.